Bonjour, donc nous commençons cette conférence sur Échiquier Value. Donc je suis en présence de Maxime Lefebvre et de Romain Ruffnacq pour une demi-heure hein, pour parler un peu d'Échiquier Value. Donc c'est la deuxième fois que vous pliez, je dirais, ou vous acceptez cet exercice cette année. Il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions sur le value. Je dirais pour rentrer tout de suite dans le sujet. On observe donc une reprise de value depuis la fin de l'été. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, d'après vous, on assiste à cette reprise?
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors selon nous, il y a 3-4 éléments qui pourraient expliquer la rotation du value depuis début septembre. Le premier élément, c'est indiscutablement l'apaisement des tensions entre les Américains et les Chinois, puisque s'il y a une date à retenir, c'est la date du 5 septembre, et cette date coïncide avec celle où le ministre chinois du commerce annonce des discussions pour septembre pour arriver à un accord commercial en octobre. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un arrêt, une baisse de la détérioration des indicateurs macroéconomiques, notamment sur le cycle industriel. Donc, on peut vous donner trois éléments de réponse dans trois régions géographiques différentes. Aux États-Unis, notamment, l'ISM Manufacturing s'est établi la semaine dernière à 48,3. Donc, c'est un chiffre qui n'est pas réjouissant, mais il a l'intérêt en tout cas de mettre fin à 6 mois de baisse consécutive aux États-Unis. En Chine également, si on prend le PMI manufacturier Caixin, il s'est établi à 51,7 et c'est le quatrième mois consécutif de hausse sur cet indice.
Qui indique quoi alors? C'est sur les activités industrielles.
Exactement.
D'accord.
Et le dernier élément, c'est sur les indicateurs macroéconomiques européens qui viennent de tomber ce matin, où l'indice market manufacturier était 45,9 contre 45,7.
Donc une fin de la détérioration qui était une tendance que l'on observait depuis combien de temps?
Depuis 6 mois aux États-Unis. Donc on a des mouvements qui sont plutôt positifs sur le cycle dans toutes les régions du monde. Et le cycle, c'est un élément très important pour la performance du style value par rapport aux autres styles de gestion. Le troisième élément, c'est qu'il y a une prise de conscience des investisseurs sur les écarts de valorisation qui commencent à devenir extrêmes entre le style value et le style croissance. Alors, par exemple, on observe sur l'indice MSCI e-New Value que la valorisation des capitalisations boursières sur fonds propres, ce que les anglo-saxons appellent le fameux ratio price to book, est de une fois actuellement, alors qu'au plus bas, il était de 0,8 et c'était en mars 2009. Et c'est un indice normalement qui se traite autour de 1,5 fois. Donc aujourd'hui, on peut investir sur le style value avec une décote de 40% par rapport à la moyenne historique. Par rapport à la croissance, si vous prenez le même indicateur, mais que vous l'estampillez croissance, aujourd'hui, le price to book de l'indice MSCI EMU, gross, c'est 3 fois. Donc toutes choses égales par ailleurs, vous avez un rapport de valorisation de 3 entre le value et la croissance. C'est historiquement très élevé puisque jusqu'à aujourd'hui, cela ne s'était produit que 2 fois, en 2000 lors de l'éclatement de la bulle Internet et en 2011 lors de la crise de la dette de la zone euro.
Donc avant l'éclatement de, hein, c'est ce que tu nous dis, Romain,
Oui.
avant l'éclatement de la bulle Internet, donc le moment où finalement la croissance était très valorisée, et en 2009.
Et en 2011,
Oui, en 2011,
où
d'accord.
les investisseurs avaient des craintes et se réfugiaient sur des valeurs dites défensives et de croissance. Ce qu'on constate historiquement, c'est qu'un tel rapport n'a pas duré très longtemps et qu'il a été des prémices à une rotation rapide en faveur du style value brutal et durable. Et on peut citer également un quatrième point, ce sont les taux d'intérêt. Donc qu'est-ce qu'on constate sur les taux d'intérêt? C'est que ils sont sur une baisse quasi ininterrompue depuis 30 ans. Aujourd'hui, on pense qu'on est en train de tester les limites du système et sans rentrer dans des considérations trop techniques, la baisse des taux d'intérêt a écrasé la prime de risque sur les actions. Et ce phénomène est un phénomène qui a été beaucoup plus profitable pour les valeurs de croissance que pour les valeurs value. Et on considère aujourd'hui que c'est un phénomène qui a plutôt lieu, un phénomène du passé qu'un phénomène d'avenir.
Donc, Romain, 4 points donc, qui peuvent justifier en fait ce retour d'intérêt, en tout cas, sur le value.
Exactement.
Alors, Maxime, comment s'est comporté le fonds dans ce mouvement?
Alors le fonds a logiquement rebondi, hein, puisqu'il a rebondi d'environ 13% depuis la mi-août. au sein du portefeuille, on constate en fait des performances assez hétérogènes entre les valeurs, en particulier entre différentes tailles de capitalisation. Ce qu'on remarque en fait, c'est qu'on a des très bonnes performances dans le portefeuille sur les grandes valeurs, donc qui représentent 55% du chiquier value aujourd'hui, donc avec des titres comme Saint-Gobain, Bouygues, BNP, UniCredit ou encore British Telecom récemment. Les performances sont un peu plus mitigées et différenciées sur les valeurs moyennes, hein, puisque donc ça représente 25% du portefeuille aujourd'hui. Et on a des titres en portefeuille tels la SS2I Sopra, par exemple, qui continue son bon parcours, puisqu'elle progresse de 50% depuis le début de l'année. Alors que certaines valeurs moyennes que nous détenons, du type Imerys, sont pénalisées par les indicateurs macroéconomiques qui sont plus pénalisants. Pour les petites valeurs, le rebond est bien moindre puisque en fait les flux sortants sur ce type de valeurs.
Les petites valeurs représentent combien du portefeuille?
Alors c'est 15% du portefeuille. C'est un segment qu'on avait réduit d'une manière importante ces dernières années. Et c'est vrai que c'est un segment qui a moins performé cette année puisque les investisseurs il y a des rachats sur les fonds de petites valeurs déjà, puis les investisseurs ont voulu reprendre du risque sur les grandes valeurs, sur les trackers, pour pouvoir faire marche arrière le cas voulu s'il le souhaite.
Donc ce retour d'intérêt sur le value depuis la fin de l'été, en fait, il se passe essentiellement sur les grandes valeurs,
essentiellement
qui sont
sur les
plus
valeurs,
liquides, ouais. Et celles sur lesquelles les flux, peut-être tactiques, se dépassent le plus rapidement.
Exactement. Après, nous, on n'est pas vraiment inquiets, parce que bon, nous, ce qu'on considère au sein du fonds, c'est que on considère que les plus belles opportunités aujourd'hui sont sur les valeurs moyennes et les petites valeurs au sein du value. Donc ça nous laisse un potentiel, on va dire, d'appréciation important qui justifie d'une progression potentielle.
Mais alors si on regarde la performance du fonds, qu'est-ce qu'on peut dire sur la performance du fonds depuis l'été?
L'été, le rebond est de l'ordre d'à peu près 13% depuis les points bas, en fait.
D'accord, donc un rebond qui est significatif.
Significatif.
En fait. Donc le fonds semble profiter, en fait, de ce rebond d'intérêt, même si, qui commence, en tout cas,
oui,
sur le value, et dont Romain nous a présenté les raisons.
Exactement.
Sur les flux, est-ce que vous observez le retour de flux acheteurs sur la catégorie ou sur le fond? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors, sur la catégorie value, ce qu'on constate, c'est que les flux ont commencé sur le value aux États-Unis. En Europe, ce n'est pas encore le cas, mais on voit un ralentissement des flux vendeurs à la fois sur le fond et sur la catégorie. Ça, c'est un phénomène plutôt récent. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est que les investisseurs marginaux sur les marchés européens, ce sont les investisseurs américains. C'est ceux qui décident de rentrer ou de sortir sur l'Europe, puisqu'ils souvent ils ne sont pas contraints d'être investis en Europe. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'ils sont assez attentistes aujourd'hui. Ils attendent notamment que les nouvelles sur le Brexit se clarifient, que la situation politique en Europe soit un peu meilleure. Et donc, c'est des éléments qui font que si on met le Brexit derrière nous, notamment en janvier de l'année prochaine, on pourrait assister à un retour de ces investisseurs sur la classe d'actifs des actions value européennes.
Donc d'après toi, Maxime, un élément supplémentaire par rapport à ce qu'a cité Romain qui pourrait venir aider cette catégorie, c'est-à-dire reprise de risque sur l'Europe qui pourrait avoir lieu sur le value pour profiter d'une situation de décote qui est historiquement extrêmement attractive. Si je résume.
Exactement.
D'accord. On est en cours de publication, enfin on est bien, enfin les publications du troisième trimestre sont bien entamées. Qu'est-ce que vous disent les sociétés ou qu'est-ce qu'elles disent sur les perspectives?
Alors la situation est assez mitigée parce que
société value. Hein,
oui, société value. Dans notre univers, en fait, nos sociétés, elles observent un ralentissement depuis deux trimestres. Donc ce ralentissement, il est lié aux effets collatéraux de la guerre commerciale et dans une moindre mesure au Brexit.
En quoi la guerre commerciale a un impact? Parce que tu l'as cité comme un élément positif, en fait, en début dans cette conférence. Comment la guerre commerciale interagit sur le value?
Alors, sur le value, ça concerne en particulier la sphère industrielle, en particulier les sociétés qui bénéficient des CAPEX, donc des investissements en général. Et donc, comme les investissements sont retardés ou ralentis à cause des conditions incertaines liées à la guerre commerciale, et bien, finalement, ces sociétés sont impactés plus ou moins en fonction de leur activité au sein de la branche industrielle. Globalement, ce qu'on constate sur les publications ce trimestre, c'est que la croissance ralentit un peu et les sociétés indiquent que le quatrième trimestre sera un peu plus faible que le troisième trimestre. Ceci dit, les sociétés sont rarement des, des indicateurs avancés de ce qui va se passer. Donc Romain nous parlait des indicateurs macroéconomiques, en particulier l'ISM, mais aussi les indicateurs PMI, c'est les choses qu'on regarde. Et on constate une stabilisation de ces enquêtes qui sont un meilleur indicateur pour nous que des discours des sociétés qui vont être finalement plus basés sur les tendances récentes, en fait. Donc on voit que ces indicateurs se stabilisent. Donc ça, c'est plutôt de bon augure pour le value et les valeurs cycliques.
Et comment réagissent les titres à ces publications ?
Alors on voit que globalement, les réactions sont quand même un peu moins violentes dans le cas de mauvaises nouvelles.
Moins de baisse sur les mauvaises nouvelles.
Exactement, puisque les valorisations sont beaucoup plus basses. Hein, Romain, vous parlez du rapport de 1 à 3 entre la valorisation des titres value et les titres de croissance. Ceci dit, bon, on constate quand même que les titres qui déçoivent lourdement sont quand même sanctionnés, ou également les titres qui ont des bilans plus faibles. On l'a vu récemment sur des titres comme Nokia, Ubisoft, Opcar, lors de la publication des troisièmes trimestres. Au sein du portefeuille, nous, on a par exemple des titres qui ont enregistré des publications assez positives. Donc c'est le cas de Dragarvar, qui fait des équipements médicaux, qui a progressé de 15% sur sa publication. De Bouygues également, qui a une position du fonds et qui progresse de 8% sur sa publication. Ou encore Danieli, qui est un acteur italien du secteur de la sidérurgie, qui lui aussi a enregistré un rebond important sur sa publication. Du côté des déceptions, donc on a TF1 qui a enregistré un repli de son cours de bourse sur des chiffres qui n'étaient pas si mauvais que ça, mais on avait un chiffre d'affaires en repli. Le marché s'inquiète de ce chiffre d'affaires du troisième trimestre, qui pourtant est normal, puisque le troisième trimestre 2018 chez TF1 était le trimestre de la Coupe du Monde, avec qui était un effet de base très difficile, et donc le chiffre d'affaires était en repli de l'ordre de 4%.
Donc si on voit les réactions haussières sur les publications, ça prouve en tout cas qu'il y a toujours des investisseurs sur ce territoire-là qui se positionnent sur ces dossiers, en tout cas.
Exactement, il y a toujours de l'intérêt. L'intérêt est un peu plus récent, et on semble quand même que les sociétés encaissent davantage les nouvelles un peu plus négatives que c'était le cas il y a un an, en fait.
Alors, peut-être avant de parler du portefeuille, parce que j'aimerais bien, enfin, bien sûr, ça va être le moment de choix de cet entretien. Pour commencer, une question sur l'échiquier value particulièrement. Qu'est-ce qui dit ? Bon, on sait qu'échiquier value investit sur le territoire de l'euro, hein, plus que sur l'Europe. Mais qu'est-ce qui distingue échiquier value d'autres stratégies value, en fait, s'il fallait résumer un peu votre réponse sur ce point ?
Alors nous, on est un fonds de multicapitalisation, donc on est exposé sur différentes tailles de sociétés. Donc ça reste le cas, même si, comme on l'a dit au début de l'intervention, on est un peu moins pondéré aujourd'hui sur les petites valeurs que ça a été dans le passé. Donc nous, on développe une stratégie selon trois axes sur le fonds. Donc déjà, premièrement, on recherche des sociétés qui sont proches des worst case en termes de valorisation. Aujourd'hui, le portefeuille est essentiellement constitué de ce type de dossier. Deuxièmement,
ça veut dire quoi, worst case ?
Donc c'était des valorisations qui sont proches des niveaux planchers historiques. Ouais. Donc typiquement, on va avoir beaucoup de sociétés dans le portefeuille aujourd'hui dont les niveaux de valorisation sont proches de ceux de 2009 ou de 2011, quand le marché avait
donc vous profitez de cette situation spécifique de marché où finalement ce territoire est très très décoté pour faire une sélection de valeurs exceptionnellement décotées.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on recherche un genre de convexité dans les valeurs, des valeurs qui résisteront mieux dans le cas de baisse, mais qui participeront à la hausse si le value revient en faveur, en fait. Le deuxième critère qu'on regarde aujourd'hui en particulier, c'est le free cash flow yield, donc la génération de flux de trésorerie par rapport à la capitalisation boursière. On s'attache à avoir des dossiers dont cette génération de trésorerie est importante, ce qui nous donne des ratios intéressants au niveau du fonds dans sa globalité. Enfin, on a...
Et ça, est-ce que c'est spécifique à échiquier value ?
Alors aujourd'hui, les niveaux de valorisation sont beaucoup plus élevés pour le marché dans leur ensemble. Et c'est vrai qu'au sein du compartiment value, en fait, il est plus intéressant de s'orienter sur ce type de société par rapport à des taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles aujourd'hui. Vous voyez, quand une société génère 10% de free cash flow yield par rapport à des taux à zéro, bah c'est vrai qu'on a un écart qui est quand même très intéressant. Enfin, le troisième axe de stratégie qu'on met en place sur le fonds aujourd'hui, c'est qu'on détient par choix très peu de sociétés fortement endettées. Donc ça nous amène à avoir des ratios de valorisation net dette EBITDA inférieurs à 4 fois pour toutes les sociétés, et sur le portefeuille qui sont faibles globalement.
Alors on va revenir sur le détail du portefeuille. Donc on a bien compris, donc il y a une spécificité d'Échiquier Value par rapport à son territoire. Tu veux rajouter quelque chose, Romain, sur ce sujet-là ?
Non, je crois qu'on a tout dit. Comme tu disais, aujourd'hui, on a un marché qui nous donne l'opportunité d'aller acquérir des titres. On en reparlera peut-être tout à l'heure, de très grande qualité à des prix attractifs, à des niveaux quasiment worst case scénario. Et on a la possibilité également d'adapter deux types de stratégies. On pourra peut-être aussi en reparler. C'est le deep value et le free cash flow yield. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des sociétés à 10% de free cash flow yield, mais qui ont également un actif de reconstitution nette de dette qui couvre largement leur capitalisation boursière.
On va y revenir. D'abord, j'aimerais bien qu'on parle un peu du portefeuille. Alors, combien est-ce que vous avez de titres dans le portefeuille ?
Alors, actuellement, dans le portefeuille, on a 45 valeurs. Et pour rappel, le fonds n'a pas vocation à avoir plus de 50 valeurs. En termes d'exposition géographique, le fonds est assez exposé aux valeurs françaises, puisque la France représente 40% du portefeuille. Et le fonds est également de plus en plus exposé à l'Allemagne, puisqu'on a une exposition de 20%. C'est une exposition qui a été récemment renforcée, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il y a des opportunités qui se créent dans ce marché, et c'est notamment vrai dans le Mittelstand allemand. Et donc, on a eu l'occasion de...
Mittelstand, c'est les valeurs moyennes allemandes.
Voilà, mais c'est également valable dans l'automobile allemand. Mmh. Donc, on a intégré en portefeuille BMW, l'action préférentielle. Et on a également acquis les sociétés d'une société qui s'appelle Takt, qui peut être considéré comme le Manutan allemand. C'est une société qui est spécialisée dans la distribution d'équipements professionnels. Donc des titres de très grande qualité qui aujourd'hui ont des niveaux de valorisation qui ne s'étaient pas vus depuis 2008-2009. Donc ça, c'est sur la partie géographie. Sur l'exposition sectorielle, on n'a pas vraiment de biais sectoriel. On n'a pas un secteur qui est surexposé. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'on a pris le parti de ne pas être exposé à certains secteurs. Alors ces secteurs sont la chimie, les biens de consommation non durables, les services aux collectivités et les assurances. Parce qu'on considère que, hormis quelques cas spécifiques, notamment dans la chimie, ce sont des secteurs aujourd'hui qui ne font pas partie de la sphère value. On ne trouve aucune opportunité attractive
et
sur ces secteurs-là. Les banques, on a une exposition, Pierre, de l'ordre de 8%. Donc c'est un secteur qui est évidemment très difficile. On ne va pas rentrer dans les considérations techniques, mais c'est également un secteur qui est largement sous-valorisé par rapport à la profitabilité encore de certains établissements bancaires. On considère que c'est un secteur qui n'est pas mort, qui distribue des dividendes attractifs et qui devrait être capable de maintenir un certain niveau de rentabilité pour les prochains exercices.
D'accord. Alors, sur des ratios comme le price to book, quel est le price to book du portefeuille aujourd'hui?
Le price to book...
On disait que on était à 1 sur le value à peu près.
Eh bien... Le portefeuille, il est à peu près au même niveau, puisque le price to book du portefeuille est de une fois.
Donc le price to book, on rappelle, c'est...
Les capitalisations boursières rapportées aux fonds propres, donc les fonds comptables de la société. C'est un ratio qu'il faut prendre quand même avec des pincettes, parce que ce qui compte, c'est la profitabilité également de son portefeuille. La profitabilité du portefeuille, elle est plutôt bonne, puisque nous, on la juge... à l'égard du ratio return on equity, donc ce sont les résultats nets, la rentabilité par rapport aux fonds propres, et la rentabilité du portefeuille est proche de 12%. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans notre portefeuille, toutes les sociétés du portefeuille sont bénéficiaires. Donc aujourd'hui, quand vous faites l'acquisition d'Échiquier Value à une fois le price to book, vous faites l'acquisition d'un certain nombre d'actifs nets de dette, et que vous avez la capacité bénéficiaire de ces sociétés, on va dire, de manière gratuite.
Alors, le bénéfice, c'est aussi le free cash flow yield.
Peut-être exactement.
Que tu peux nous rappeler ce que ça veut dire, mais c'est une notion importante.
Alors, on parlait du price to book, donc ce sont les actifs. Oui. Mais nous, on ne cherche pas uniquement des actifs. Il faut également des actifs qui ont une capacité bénéficiaire, qui vont nous rapporter un certain niveau d'argent chaque année. Donc, le free cash flow yield, qu'est-ce que c'est? C'est les flux de trésorerie libres après l'investissement.
La richesse générée par la
richesse,
société.
Le cash. Ouais. Cash is king. Mm-hmm. Donc, pour te donner des ratios sur le portefeuille, aujourd'hui, le portefeuille, il se paye 13 fois les résultats, donc 13 fois le price earning. les sociétés de notre portefeuille ont en moyenne une conversion cash qui est très élevée, donc c'est du clean earnings. Donc elles ont l'inverse de leurs résultats, donc c'est-à-dire 8% à peu près de free cash flow yield.
Ce qui est un niveau élevé.
Ce qui est un niveau historiquement élevé pour le portefeuille.
L'endettement, on en a parlé rapidement. Donc toi, tu disais une fois net debt EBITDA, c'est ça si je...
Pour le portefeuille.
Encore une notion plutôt de solidité du portefeuille. La valorisation, tu l'as cité, tu as parlé d'un PE moyen
de 13 fois les résultats fois, et un free cash flow yield de 8%.
Donc on bénéficie vraiment de ce territoire pour faire une collection en fait de convictions à des valorisations qui sont extrêmement attractives. Alors parlons un peu de vos convictions et parlons de dossiers. Tu citais le free cash flow yield. Alors qu'est-ce qu'il y a comme dossier qui a un free cash flow yield exceptionnellement élevé aujourd'hui dans le portefeuille des Chéquier Value?
Alors, dans l'univers des free cash flow yield, on peut parler des médias et notamment des chaînes de télévision. Maxime parlait tout à l'heure de TF1 qui a été sanctionné de manière difficile la semaine dernière. Alors, les sociétés de télévision aujourd'hui, alors, nous on est actionnaires de TF1, M6 et RTL Group, sont des sociétés qui génèrent à peu près 10% de free cash flow yield. Donc, à comparer à des niveaux de taux d'intérêt qui sont de 0%, il y a un spread, un écart très, très important envers ces sociétés. Dans certains cas, tu as également des chaînes de télévision qui ont des free cash flow yield élevés, mais qui sont capables de générer de la croissance. Donc, la télé n'est pas forcément morte. C'est notamment le cas de RTL Group. Et ce sont des sociétés qui, aujourd'hui, distribuent 2/3 de leur free cash flow sous forme de dividendes. Donc, on peut attendre, sauf cataclysme majeur, on peut attendre des dividendes, des rendements sur dividendes de l'ordre de 6 ou 7% sur ces trois sociétés.
Ça, c'est des rendements élevés pour le portefeuille ou il y a d'autres rendements plus élevés dans le portefeuille?
Alors, je peux te parler d'autres rendements. Il y a plein. Comme on disait tout à l'heure, on a une collection de business actuellement où il y a des free cash flow yield élevés. Alors, par exemple, il y a TAC, dont on parlait tout à l'heure, mais il y a une société aussi sur laquelle on a investi récemment, c'est British Telecom Group, qui est le leader au Royaume-Uni sur l'Internet et le mobile, avec des parts de marché supérieures à 30%, avec des taux d'attrition des clients, donc des pertes de clients qui sont très faibles, donc un modèle qui est beaucoup plus résilient qu'il n'y paraît. Et c'est une société aujourd'hui qui vient de confirmer qu'elle allait distribuer un dividende qui va représenter 7,5% de rendement par rapport au cours actuel, sachant qu'on a acquis BT Group sur des bases de 180 pence alors que ça cote aujourd'hui 205 pence. Et ce qui est meilleur en plus sur BT Group, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui on a la possibilité d'acquérir des sociétés qui ont des free cash flow yield élevés, des rendements sur dividendes élevés et qui ont des actifs de reconstitution net de dette très élevés.
Alors qu'est-ce que ça veut dire actif?
Alors l'actif de reconstitution, ça veut dire si vous souhaitez établir...
Reconstruire cette entreprise.
Voilà. Si vous voulez établir un concurrent de BT Group, il va falloir acquérir des terrains, des constructions, du matériel, des actifs. Donc dans le cas de BT Group, il y aura beaucoup de câbles, de cuivre, de la fibre optique, des actifs qui ne sont pas très sexy, mais qui sont quand même nécessaires pour consommer Amazon Prime, Netflix et autres flux. Si vous souhaitez établir un concurrent à BT Group, aujourd'hui, ça vous coûtera au minimum l'équivalent de 250 pence par titre BT Group. Alors que nous, c'est une société qu'on a acquis à 180 pence par titre.
Est-ce que tu as d'autres exemples à l'esprit de sociétés sur lesquelles les actifs de reconstitution sont extrêmement, beaucoup plus élevés que la valorisation boursière actuelle?
Alors, lors du premier call, on avait parlé de Schaeffler. Je pense qu'on peut encore en parler parce que... C'est une société allemande, un équipementier automobile exposé sur l'auto, spécialiste des roulements à billes. C'est une société familiale, bien gérée. Aujourd'hui, le secteur de l'automobile est complètement délaissé et même déprimant. Et donc, vous avez la possibilité d'acquérir ce type d'actif qui, au passage, Schaeffler va réaliser du free cash flow cette année sur des free cash flow élevés à des niveaux de valorisation très faibles. Aujourd'hui, Schaeffler, c'est un cours qui est inférieur à 8 euros. L'actif de reconstitution net de dette de Schaeffler, il est probablement supérieur à 12 euros par titre. Donc on a une décote de 40% par rapport à l'actif de reconstitution net de dette de Schaeffler.
Et pour revenir sur une question qu'on a traitée, c'est-à-dire la répartition sectorielle du fonds, l'automobile représente aujourd'hui à peu près combien de
portefeuille ? On est à peu près à 6%.
6%.
Donc. Il est décomposé en trois valeurs, BMW, dont on parlait tout à l'heure, Schaeffler, et on a également un petit équipementier automobile français qui s'appelle Aquel, anciennement MGI Coutier, une société également très bien gérée, peu endettée, à des niveaux de valorisation qui nous paraissent... ubuesque.
Donc pour résumer, aujourd'hui, on est sur un territoire qui a mal performé, qui semble se reprendre pour des raisons qu'on arrive à expliquer, qui sont assez claires, c'est-à-dire une sorte de stabilisation peut-être de la dégradation d'une situation économique qui n'a pas été favorable aux industriels, aux cycliques, et avec des valorisations qui sont attractives. Et vous, dans votre exercice en fait, de gestion, vous nous sélectionnez finalement sur le territoire euro, hein, je répète, ce qui vous semble être les opportunités les plus attractives, avec peu de dettes, une rentabilité qui est élevée en termes de génération de cash, un price to book qui est quand même une notion, bon, même si on peut en discuter longtemps, mais qui reste quand même importante, un price to book qui est faible et avec une rentabilité sur ses capitaux employés qui normalement devrait justifier un price to book plus élevé.
Oui. Exactement.
Et finalement, on est dans une situation où, après des mois de sous-performance, on se retrouve d'une certaine façon avec une prime de risque qui peut sembler un peu excessive ou très excessive sur ce territoire des entreprises value et qui devrait pouvoir se réduire au fur et à mesure qu'on retrouve de la visibilité et donc une capacité à lire le futur plus importante. Je résume bien ?
C'est extrêmement bien.
Bon, donc on reste confiant sur ce style pour les prochains mois. C'est pas simplement un démarrage pour quelques jours ou quelques semaines. C'est a priori, on pense à un retournement d'une période, enfin retournement plus en faveur du value.
Oui, ça rejoint ce que disait Romain tout à l'heure, c'est que pour nous la baisse des taux d'intérêt est plutôt derrière nous et que voilà, on est plutôt dans un scénario où l'écart de valorisation de 3 fois va se normaliser. Ce qu'on a moins en tête, c'est l'échelle temporaire, mais en tout cas, c'est parti pour se normaliser.
Voilà. Et puis, alors, il y a un autre élément que j'aimerais mettre en avant en conclusion, c'est que il semblerait, alors c'est une étude d'un gros cabinet d'analyse de la place, hein, pour ne pas le citer, Goldman Sachs, qui dit que sur les 23 dernières années, donc le tiers des mouvements liés aux décisions de rotation de portefeuille interviennent en janvier. C'est toi qui m'as glissé ça, Romain, très très habilement, avant de préparer, enfin en préparant cette réunion, de façon à ce que je puisse conclure de façon intelligente. Et que donc, a priori, les investisseurs qui vont vouloir se repositionner sur le style value, ils devraient le faire dans les semaines à venir, ou tout au moins pendant ce mois de janvier. Et donc, ça devrait probablement constituer un phénomène, une période, ou du moins le... favorable en termes de flux, en termes techniques pour cette thématique value.
Exactement. On pense que si on croit au value, ce qu'on fait, Maxime et moi, il est intéressant, opportun de se positionner sur le style en amont.
Bon, message est très clair. Merci à tous les deux donc pour cette demi-heure d'échange. Pour ceux qui veulent réécouter cette conférence, sachez qu'on tient à votre disposition un enregistrement. Et puis on vous retrouve donc début décembre donc pour un autre exercice sur un autre fonds. Merci de votre écoute et merci de votre présence. Merci à tous les deux.
Merci.